On s'est posé la question, qui sont les enfants d'Abraham? Et on était allé voir dans l'évangile de Luc, dans les Actes des Apôtres, dans l'évangile de Jean, un petit peu le témoignage de ces livres-là pour essayer de répondre à la question. Et quelle était la réponse qu'on avait donnée à ce moment-là par rapport à ces témoignages?
Ouais.
Donc il y avait la repentance dans le sens qui porte du fruit, pas juste le fait de se repentir religieusement, mais de porter du fruit. Et on avait vu que aussi bien Jean-Baptiste que Jésus-Christ, que Pierre, lors de leur prédication ou proclamation, vont amener ce message de repentance, changer de vie. Et aujourd'hui, en fait, je voulais voir cette même question dans l'Épître aux Romains. On aurait pu prendre aussi l'Épître aux Galates au chapitre 3, et on aurait pu aussi aller dans l'Épître de Jacques. Toutes ces épîtres, en fait, sont intéressantes, et Jacques est légèrement, traditionnellement, vu comme à part, parce que, bon, déjà, c'est pas Paul qui l'a écrit, c'est Jacques. Il y a deux controverses, en fait, qui sont liées à ces épîtres-là. C'est pour ça qu'on les a vues séparément. C'est que beaucoup de personnes pensent que Paul ne prêchait pas la même chose que Jésus-Christ, d'un point de vue de ce que Dieu attend de nous. Et d'autres pensaient même que Jacques ne prêchait pas le même message que Paul, notamment par rapport à la justification et par rapport à plein de choses. Donc, dans ce débat, en fait, on essaie de résoudre et de voir que l'ensemble du problème se résout lorsqu'on fait attention au contexte de ces livres-là et aux personnes, effectivement, auxquelles ils s'adressent. On peut essayer vraiment de comprendre, et c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. On va essayer d'être focalisé sur Romains, mais on va essayer de voir dans Galates et un peu dans Jacques, et voir finalement ces tendances qui apparaissent toujours aujourd'hui dans nos églises, par rapport à, tiens, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Comment est-ce que Dieu nous justifie? Est-ce que nos œuvres y peuvent quelque chose? Et on va voir finalement que le débat est toujours présent aujourd'hui dans nos églises. Avant de commencer la lecture, je vais prier. Merci Seigneur de nous aider par ton esprit à nous éclairer quant à ce que ce texte veut nous enseigner. Et au-delà de ce texte, nous savons que c'est toi Seigneur qui veux nous convaincre de ta grâce, nous montrer ta grâce infinie et ton amour pour des créatures aussi faillibles et pécheresses que nous. Nous voulons te remercier déjà pour cela et le privilège que tu nous aies communiqué ton Saint-Esprit afin que nous puissions croire et avancer dans cette marche avec toi. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Romains, donc on va lire le chapitre 4. Quelqu'un veut lire?
Chapitre 4.
Oui.
Que dirons-nous donc d'Abraham, notre ancêtre? Qu'a-t-il obtenu par ses propres efforts? Si Abraham a été considéré comme juste sur la base de ses œuvres, il a de quoi se montrer fier, mais non devant Dieu. En effet, que dit l'Écriture? Abraham a eu confiance en Dieu, et cela lui a été compté comme justice. Or, si quelqu'un accomplit quelque chose, le salaire est porté à son compte, non comme une grâce, mais comme un dû. Par contre, si quelqu'un ne fait rien, mais croit en celui qui déclare juste l'impie, sa foi lui est comptée comme justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu attribue la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les fautes sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne tient pas compte de son péché. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis? Ou bien est-il également pour les incirconcis?
Merci, on va juste arrêter là et on continuera après. Ça c'est une petite portion de texte, d'abord, au moins on l'a en tête, parce que je pense qu'à la fin, quand on aura tout lu, on va avoir oublié quelques aspects. C'est important à ce moment-là, pour nous, d'essayer de comprendre l'Épître aux Romains dans sa généralité, pour essayer de comprendre pourquoi Paul parle de ça ici. le contexte de l'épître aux Romains, donc c'est une église qui donc bon, déjà à Rome, ok, pas très complexe, et c'est une église mixte, ça veut dire qu'à l'intérieur il y a des personnes qui sont d'Israël et qui sont venues à Rome, et donc c'est des personnes d'origine juive qui croient en Jésus-Christ. Mais il y a aussi à l'intérieur de cette église des chrétiens ou des personnes païennes qui sont venues à Jésus-Christ, et donc qui ne sont pas du tout dans la compréhension du judaïsme et des lois juives et de la Torah et toutes ces choses-là. Et donc l'église s'est constituée du message de la proclamation de Jésus-Christ comme sauveur et seigneur, et puis la communauté est formée des deux populations. Et ce qui s'est passé, c'est que ça, on peut reconstruire un peu l'histoire de ce qui s'est passé dans cette église avec l'ensemble du Nouveau Testament et un petit peu de l'histoire, notamment un peu Priscille et Aquila, vous voyez ces personnages, qu'à un moment donné, on voit que Paul les rencontre en Israël, quelque part. Et qu'est-ce qu'ils font là, sachant qu'ils viennent de Rome, et en fait, on comprend qu'à un moment donné, le gouvernement romain voyez que dans cette communauté, il y avait des disputes. Et eux, ce qu'ils voulaient, c'était la paix. Alors ils ont dit, tous ceux qui ne sont pas citoyens romains, ils dégagent. Donc toutes les personnes qui étaient dans la communauté et qui étaient d'origine juive, croyant en Jésus-Christ, se sont fait dégager pour retourner en Israël. Et pendant tout un temps, donc la communauté de Rome et n'est resté constitué que des chrétiens d'origine païenne, donc d'origine de Rome, si on veut. Et la dispute, c'était qu'ils n'arrivaient pas à s'entendre sur qu'est-ce que Dieu attend de nous en tant que communauté, comment est-ce qu'on sait que Dieu nous approuve, comment est-ce qu'on sait que Dieu nous a sauvés, comment on peut savoir ça. Et il y avait une dispute. Et le truc, c'est que ça, ce passage ici, où l'épître aux Romains, entre guillemets en général, s'adresse après cette période où le gouvernement romain avait interdit aux juifs, enfin aux chrétiens d'origine juive, de rester à Rome. Donc cet édit a été enlevé, quelque part, et les juifs sont revenus à Rome. Mais le truc, c'est que pendant tout un moment, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, c'est que les païens, les chrétiens païens, si on veut, d'origine païenne, avaient pris le contrôle, si on veut, ou la direction de l'Église à ce moment-là. Et il y avait des tensions à nouveau qui se passaient. C'est-à-dire que les Juifs, à nouveau réintégrés dans la communauté, les anciennes discussions sont revenues. Et Paul essaie ici de résoudre le problème. Et les huit premiers chapitres vont quelque part s'adresser, enfin 8 et 8 et 11 jusqu'à 11 vont faire un peu un pilier de changement ici, une transition. Mais les huit premiers chapitres s'adressent à cette communauté juive dans la communauté de Rome, quelque part, pour essayer de leur faire comprendre comment est-ce que Dieu va justifier. Et puis les derniers chapitres de Romains, bah, hop, changement de discours, il va s'adresser plus à la communauté des chrétiens qui sont d'origine païenne à l'intérieur, pour essayer de leur dire comment est-ce que vous pouvez vivre avec... Vous devez apprendre à vivre avec vos frères d'origine juive et accepter qu'ils viennent d'une culture où il y a certaines choses et des lois, en fait, qui sont importantes pour eux. Et vous devez apprendre. Donc il y a tout ce discours d'accepter le faible dans sa foi, ne pas être une occasion de chute et tout ça, les viandes sacrifiées aux idoles, tout ce discours-là, qui va être adressé aux chrétiens d'origine païenne pour leur dire, écoutez, la révélation, premièrement, a été donnée aux juifs, okay, et même si, pour une raison ou une autre, et c'est ce qu'on va voir dans Romains 9 après, ils ont été écartés de la promesse de Dieu, c'est afin que vous puissiez, vous, y rentrer, donc ne vous enorgueillissez pas, que Dieu vous ait choisi et qu'il vous ait sauvé par la foi en Jésus-Christ. Parce que ces personnes-là ont reçu premièrement la révélation, et quelque part, on pourrait voir dans Romains 11 que peut-être Dieu ne va pas les oublier. Donc, c'est un peu une épître où Paul va essayer de réconcilier compréhension du christianisme qui viennent d'un milieu juif et d'un milieu païen, en fait, quelque part ici. C'est assez exceptionnel ce qui se fait. Et donc, on va voir dans Romains 4 certains aspects, dans Romains 9, ce qu'on va lire juste après, ce que Paul veut essayer d'enseigner. Mais si on n'a pas cette conception en tête de ce que Paul essaie de faire là, on risque de mal comprendre son enseignement. Donc maintenant, on peut peut-être continuer. Je résume juste ce que tu viens de lire. Donc, il se sert d'Abraham. Pourquoi ? Parce qu'on l'avait vu en étude biblique. Pour eux, c'est important parce qu'ils se disent dans la tête, nous sommes descendants d'Abraham. Et donc, tout ce qui est venu après Abraham, la loi, les prophètes et tout ça, ça fait partie de notre origine, notre culture, notre descendance. Et Dieu attend de nous qu'on respecte ça. Et donc Paul va essayer de revenir un peu en arrière en disant non, l'objectif de la loi avait autre chose. Ce qui est important, c'est de revenir à la promesse qui n'a pas été faite après, lorsque la loi a été donnée, mais avant. Donc maintenant, c'est ça qu'on va dire.
En effet, nous disons que la foi d'Abraham lui a été comptée comme justice. Quand donc a-t-elle été portée à son compte ? Était-ce après ou avant sa circoncision ? Ce n'était pas après sa circoncision, mais bien alors qu'il était incirconcis. Et il a reçu le signe de la circoncision comme le gage de la justice qu'il avait obtenue par la foi alors qu'il était incirconcis. Il est ainsi le père de tous les incirconcis qui croient, afin que la justice soit aussi portée à leur compte. Il est aussi le père des circoncis qui ne se contentent pas d'être circoncis, mais qui marchent aussi sur les traces de la foi de notre ancêtre Abraham, comme il était encore incirconcis. En effet, il n'est pas par la loi que la promesse de recevoir le monde en héritage a été faite à Abraham ou à sa descendance, mais c'est par la justice de la foi. Car si l'on devient héritier par la loi, la foi est dépourvue de sens et la promesse sans effet. En effet, la loi produit la colère de Dieu, puisque là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de transgression. C'est donc par la loi... C'est donc par la foi que l'on devient héritier pour que ce soit par grâce et que la promesse soit assurée à toute la descendance, non seulement à celle qui dépend de la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham. En effet, Abraham est notre père à tous, comme cela est d'ailleurs écrit. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant Dieu en qui il a cru, le Dieu qui donne la vie aux morts, et appelle ce qui n'existe pas à l'existence. Espérant, contre toute espérance, Abraham a cru et est ainsi devenu le père d'un grand nombre de nations, conformément à ce qui lui avait été dit. Telle sera ta descendance. Sans faiblir dans la foi, il n'a pas considéré que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, ni que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il n'a pas douté par incrédulité de la promesse de Dieu, mais il a été fortifié par la foi et il a rendu gloire à Dieu, car il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui a été compté comme justice. Alors ce n'est pas pour lui seulement qu'il est écrit que la foi a été portée à son compte, mais c'est aussi pour nous. Elle sera portée à notre compte puisque nous croyons en celui qui a ressuscité Jésus notre Seigneur, lui qui a été donné à cause de nos fautes et qui est ressuscité à cause de notre justification.
Merci. Je lis juste les deux premiers versets du chapitre 5. Ainsi donc, justifiés par la foi, nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui, nous avons accès par la foi à cette grâce en laquelle nous sommes établis et nous mettons notre orgueil dans l'espérance de la gloire de Dieu. Donc, le conflit qui se passait un peu entre ces juifs et ces païens, c'est que les juifs disaient, bon écoutez, c'est bien, la foi en Jésus-Christ est venue, ok, mais il faut continuer à pratiquer la loi. C'est important. Si on ne le fait pas, Dieu ne peut pas nous justifier, parce que on doit être justifié si on fait les commandements de Dieu. Et donc le débat était là, c'est que le problème, c'est que c'est chrétiens d'origine païenne, n'avaient pas été éduqués dans les choses de la loi, parce que le message de proclamation des apôtres ne prenait pas en compte, on va dire, les commandements venant de la Torah, mais la proclamation que Jésus-Christ était venu pour mourir comme une victime expiatoire pour les péchés de l'humanité, donc en remplacement. Et ça, les païens pouvaient le comprendre, parce qu'ils pouvaient comprendre ce que c'était le péché, le manquement par rapport à Dieu. On le voit dans l'Épître aux Romains, au chapitre 3, verset 23. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et donc, dans ces 8 premiers chapitres, Paul va essayer de dire, non, vous inquiétez pas, les païens, ils savent ce que c'est le péché. Ils savent dans leur conscience ce que c'est. Ils voient le mal, ils arrivent à se rendre compte de ça. Et ils le font sans qu'il y ait eu besoin de révélation de la loi, en fait, le texte nous dit. Et donc, ce qui se passe, c'est que forcément, que les païens vont recevoir Jésus-Christ comme solution pour que Dieu soit apaisé de ses manquements et que la justice soit faite. Donc, les païens, entre guillemets, ils reçoivent un évangile très simple, très simplifié. Mais les juifs se disent, oui, mais à quoi ça sert alors, tout ça? Et Paul va poser la question au début du chapitre 3, là, et il va dire, est-ce que ça sert à rien d'être juif? À quoi ça sert? Si c'est, entre guillemets, aussi simple que ça, il suffit d'avoir la foi, et que ça ne dépend pas des œuvres de la loi, pourquoi être juif? Et Paul dit non, c'est important. Parce que dans le fait d'être juif, il y a eu le privilège de recevoir la responsabilité d'être une lumière pour les nations. On a reçu les lois, on a reçu les commandements, on a reçu les patriarches, il va dire. De qui vient Jésus-Christ? Et ça, c'est un privilège, il va dire. Mais un privilège qui ne doit pas être regardé comme propre à nous, comme une race personnelle, mais nous sommes là afin de pouvoir bénir d'autres. Et Paul va dire, voilà, donc comment est-ce que vous pouvez, vous, en tant que juif, qui pensez que la pratique de la loi peut vous justifier? Non, vous devez comprendre que c'est la foi en Jésus-Christ, comme Seigneur et Sauveur, qui vous justifie. Et donc, ça c'est le message, on va dire, que vous devez vous tenir. Et votre orgueil, Dieu veut vous libérer de votre orgueil, de croire qu'en pratiquant les œuvres de la loi et faire le bien tel que Dieu vous demande, vous acquérera une place auprès de lui. Et donc, ça c'est un aspect qui est important de noter. Et avant d'aller dans Romains 9 pour la suite, c'est important de se poser la question, tiens, quand vous lisez l'Épître de Jacques, je ne sais pas si vous êtes assez familier avec ça, mais on voit en fait que Jacques semble dire le contraire. Parce que Jacques dit que la foi sans les œuvres est morte. Et qu'on ne peut pas, quelque part, être sauvé juste par la foi, mais qu'il faut les œuvres. Et on est un peu embêté parce qu'on se dit, ah, ok, mais est-ce que Jacques et Paul ne sont pas d'accord? Et ça va encore plus loin, parce que qu'est-ce que va faire Jacques? Il va utiliser Abraham. De la même façon, il va dire, regardez, sa foi, ça a été compté comme justice, ok, bien, mais son obéissance, en fait, il va dire. Ça, c'est ce qui a validé. Donc, nous, on est là, on fait quoi? Donc, il faut avoir la foi en Jésus-Christ. Mais Paul dit que les œuvres, entre guillemets, ne sont pas nécessaires. Et Jacques dit que non, il faut qu'il y ait l'obéissance qui suive et que, comment d'aimer ça? Et c'est ça qui est intéressant, c'est que Paul ici va utiliser Abraham d'une façon intéressante, c'est qu'il va utiliser Abraham au moment où Dieu l'a appelé. Regarde les étoiles, regarde tout ça. Et qu'est-ce que fait Abraham au moment où il dit tu auras une descendance? Mais Abraham dit, ok, je crois, j'ai foi que ça va être possible. Mais Jacques, ce qu'il fait, c'est intéressant parce qu'en fait, il fait référence à, plutôt, ici ce serait plutôt en Genèse 14, et Jacques fait référence à Genèse 22, et aussi avec le passage avec Isaac. Et donc c'est après, en fait, c'est après ce passage. Même si Dieu va rappeler la même chose que sa foi lui a compté justice, comme justice, Jacques va utiliser le passage suivant, où quelque part, Abraham a déjà, entre guillemets, la foi. Et qu'est-ce que sa foi va permettre? va lui permettre d'obéir finalement à Dieu. Et donc, ce qui est important, c'est que c'est de comprendre une chose, et dans le, on pourrait le lire, vous pourrez aller voir dans Galates 3, Paul va exactement utiliser le même argument qu'on vient de lire ici dans Romains 4, que Abraham, est un père pour ceux qui ont la foi, c'est la même chose, hormis toute pratique d'œuvre. Même argument. Mais au chapitre 6 de Galates, plus loin, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, attention, il faut vivre par l'esprit et non par la chair. Et ce qui est intéressant, ce que Paul essaie de faire dans Galates entre le chapitre 3 et 6, il essaie de montrer qu'il y a un lien entre avoir la foi et avoir l'esprit, qui fait qu'on va pratiquer les œuvres de l'esprit et pas celles de la chair. Donc, pour résumer ce survol un petit peu de cette doctrine qu'on appelle justification, ce que Paul est en train de dire n'est pas contre ce que Jacques veut dire. Ce que les deux veulent dire, c'est les deux faces d'une même pièce. C'est que lorsque Dieu choisit de nous justifier par rapport à nos péchés, comme il le dit ici, il cite David en disant « Heureux ceux dont les offenses ont été pardonnées et le péché remis. Heureux l'homme au compte de qui le Seigneur ne porte pas le péché. » Entre guillemets, Dieu fait un choix de ne pas juger sa création selon son œuvre, quelque part. C'est une mauvaise œuvre. Et choisit de les justifier par la foi en Jésus-Christ, comme on voit dans ce texte. Et donc, comment réconcilier les deux? C'est que Paul est en train de dire ce qui nous justifie, c'est la foi. Ce qui montre qu'on est justifié, c'est les œuvres. Okay? C'est les deux faces d'une même pièce. On va aller juste dans Romains 9 et on reviendra sur cette question. Parce que, en fait, vous allez comprendre du coup pourquoi est-ce que la question de cette prédication est qui sont les enfants d'Abraham? Pourquoi est-ce que je dis on a vu que c'était la repentance et les fruits? Maintenant, on va voir l'axe de la foi, en fait. On va aller dans Romains 9 maintenant, et puis on reviendra sur cette question. En fait, on tourne toujours autour de cette question, il n'y en aura pas plus aujourd'hui. Romains 9, je vais lire les 18 premiers versets. En Christ, je dis la vérité, je ne mens pas. Par l'Esprit Saint, ma conscience m'en rend témoignage, j'ai au cœur une grande tristesse et une douleur incessante. Oui, je souhaiterais être anathème, être moi-même séparé du Christ pour mes frères, ceux de ma race selon la chair, eux qui sont les Israélites à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses et les pères, eux enfin de qui selon la chair est issu le Christ qui est au-dessus de tout. Dieu béni éternellement. Amen. Non que la parole de Dieu ait été mise en échec. En effet, tous ceux qui sont de la postérité d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être la descendance d'Abraham, tous ne sont pas ses enfants. Non, c'est la postérité d'Isaac qui sera appelée ta descendance. Ce que signifie, ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu comme descendance, seuls les enfants de la promesse entrent en ligne de compte. Car c'était une promesse que cette parole, à pareille époque, je reviendrai et Sarah aura un fils. Et ce n'est pas tout, il y a aussi Rebecca. C'est du seul Isaac, notre père, qu'elle avait conçu. Et pourtant, ses enfants n'étaient pas encore nés, et n'avaient pas donc fait ni aucun bien ni aucun mal, que déjà, pour que se perpétue le dessein de Dieu, dessein qui procède par libre choix de Dieu, et ne dépend pas des œuvres, mais de celui qui appelle. Il lui fut dit, l'aîné sera soumis au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Qu'est-ce à dire? Y aurait-il de l'injustice en Dieu? Certes non. Il dit en effet à Moïse, je ferai miséricorde à qui je veux faire miséricorde. Et je prendrai pitié de qui je veux prendre pitié. Cela ne dépend donc pas de la volonté ni des efforts de l'homme, mais de la miséricorde de Dieu. C'est ainsi que l'Écriture dit au Pharaon, je t'ai suscité précisément pour montrer en toi ma puissance et pour que mon nom soit proclamé par toute la terre. Ainsi donc, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. On pourrait lire encore le texte ici. Vous pourriez le lire pour vous, pour le contexte. Et il clôture. Donc, Paul clôture. Qu'est-ce qui se passe? Paul, ici, va achever finalement sa doctrine de la justification, qu'il a rendue très claire entre le chapitre 4 et 8, ici, pour dire une chose qui est marquante, en fait, pour les Israélites, quelque part. Ce n'est pas parce qu'on vient d'un point de vue génétique ou naturel d'Abraham qu'on est ses enfants. Et ça, c'est pas parce qu'on appartient à une nation qu'on est sous la bénédiction de Dieu, quelque part. Et ça, c'est marquant pour le peuple d'Israël qui pense être la nation par laquelle Dieu va les bénir, et que voilà, c'est le peuple de Dieu, et que cette compréhension finalement que toute personne qui est approuvée par Dieu doit devenir un Israélite quelque part, ou doit participer à ce peuple-là. Et Paul essaie de démonter ça, et ça c'est pas évident pour eux. C'est pas évident du tout parce que il y a une fierté nationale qui est présente, il y a quelque chose qui existait quelque part déjà dans les pharisiens, on le voyait du temps de Jésus-Christ, hein, on le voyait, il y a ce côté de dire non, mais attends, c'est à nous qui a été donnée la loi. Et donc on doit essayer un peu de comprendre ici qui sont les enfants, alors si ce n'est pas ceux qui viennent des gènes, on va dire, d'Abraham uniquement. Alors, comment répondre à cette question ici? Déjà, je poserai la question ici, dans ce texte-là, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous dérange?
Même c'est dur à avaler, hein, qu'il a choisi Ésaü et pas
Abel. Jacob?
Non.
Jacob?
Oui, mais Abel et Caïn aussi.
Oui, ok.
C'est plus loin, on voit.
Non, mais c'est similaire, oui.
Après, on se dit, oui, c'est vrai, en fait, ils étaient tous les deux mauvais, il en a choisi un. Et donc il a fait une faveur à un, mm-hmm. mais l'autre n'a pas été défavorisé parce qu'il a fait une faveur à son frère. Mm-hmm. On peut comprendre, mais dans la vie, en pratique, c'est injuste.
C'est ça. Donc c'est bien pour ça en fait qu'il pose la question verset 14. Y a-t-il de la justice en Dieu? Non. Mais alors c'est ça qui est important de comprendre. On ne va pas aujourd'hui essayer de résoudre le mystère de la prédestination. Ce n'est pas l'objectif. Même si au chapitre 8, c'est un peu le sujet quelque part, parce qu'il va dire ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, ceux qu'il les a appelés, il les a aussi justifiés, ceux qu'il les a justifiés, il les a glorifiés. Donc, on voit ici que quelque part, il y a un mystère où Dieu doit demeurer souverain, tout en étant juste. Mais ce qui est important, c'est que vous voyez, il y a une chose qui est cruciale, c'est que Dieu agit d'une façon à préserver sa liberté. Donc, plutôt que de nous poser la question « est-ce que l'homme est libre ? Est-ce que l'homme a le libre arbitre ?» on ne se pose pas cette question ici. La question qui est importante, c'est « est-ce que Dieu est libre ?» Et la réponse est oui. Il l'est. C'est tout. Le reste, nous sommes autant responsables que Dieu est libre. Ok ? Dans son choix souverain. Mais, clairement, il y a une question d'élection. Mais la question qui est importante... Et c'est pour ça que je dis, on ne va pas parler tellement de prédestination aujourd'hui, ce n'est pas l'objectif, mais de dire pourquoi est-ce que Paul va utiliser l'argument de l'élection maintenant, dans ce contexte-là, sachant qu'il essaie de résoudre un problème entre juifs chrétiens et païens chrétiens. Okay? Pourquoi? Il est en train de dire une chose qui est importante, qu'il va développer au chapitre 10 et 11. Il y a eu un endurcissement dans le cœur des Israélites qui font que certains ne croient pas en Jésus-Christ. Et Paul va dire une chose au début du chapitre 9, il va dire, est-ce que, quelque part, la promesse de Dieu ne peut pas arriver au bout, quelque part? Parce que si tout ce que Paul vient de dire est vrai, c'est-à-dire qu'on est justifié par la foi en Jésus-Christ, et que dans les Israélites, peuple de la promesse, certains n'ont pas reçu Jésus-Christ et n'y croient pas, alors est-ce que la promesse faite à Abraham tombe à l'eau? Parce que selon la promesse faite à Abraham, tous devraient croire. Mais non. Et c'est là où Paul va dire, non, vous n'avez pas compris. Il y a une élection qui est importante. Le peuple d'Israël avait une mission qui était de promouvoir la gloire de Dieu, d'être une lumière pour les nations. Et Dieu avait prophétisé qu'ils ne croiraient pas. Et que leur endurcissement ferait en sorte que ce soit ce moyen-là que Dieu choisirait pour bénir les autres. Et il va citer un peu plus loin, au verset 25 du chapitre 9, que nous n'avons pas lu, mais si vous avez la Bible. « C'est bien ce qu'il dit dans Osée, celui qui n'était pas mon peuple, je l'appellerai mon peuple, et celle qui n'était pas là, bien-aimée, je l'appellerai bien-aimée. Et là même où il leur avait été dit, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. » Dieu est allé susciter dans un peuple la foi, alors qu'il ne cherchait même pas Dieu, dit l'Épître aux Romains. Ceci afin de susciter la jalousie du peuple initial, si on veut. Et ils ne sont pas empêchés de venir à la foi, quelque part. Ils peuvent venir à la foi. Mais leur endurcissement sert à Dieu comme un moyen d'étendre le salut à toutes les nations. Donc ici, il y a quelque chose qui est très important. C'est qu'il est en train de dire une chose, il est en train de dire « Les fils d'Abraham, les enfants d'Abraham, ne sont pas uniquement ceux de la descendance, on va dire, génétique ou nationale d'Abraham, mais tous ceux qui ont la foi en Jésus-Christ. » Quand même, quelque chose de fort, ici. Donc, il est en train de dire aux Juifs, si vous êtes aujourd'hui considérés comme les enfants d'Abraham, ce n'est pas à cause du fait que vous partagiez les mêmes gènes que lui, mais parce que vous avez cru en Jésus-Christ. Donc, si vous êtes dans cette église à Rome, comme témoin de la lumière, quelque part, ce n'est pas parce que Dieu vous a choisi en dehors de la foi, mais parce que, justement, vous avez cru en Jésus-Christ, et que donc vous êtes les enfants d'Abraham. Les autres ne le sont pas. Donc, qu'est-ce que Paul essaie de faire ici? Il est en train de séparer les Juifs qui ont cru en Jésus-Christ, des Juifs qui n'y ont pas cru. Et ça, dans un objectif très clair, de dire, ce peuple-là qui ne croit pas en Jésus-Christ, cette nation qui a rejeté le Messie, vous n'êtes pas avec eux quelque part, vous n'êtes pas frères avec eux quelque part. Vous avez beau être juif de descendance, mais ce qui fait que vous êtes enfant d'Abraham, c'est la foi en Jésus-Christ. Qu'est-ce qui fait que les chrétiens d'origine païenne sont enfants d'Abraham? C'est qu'ils ont cru en Jésus-Christ. Donc vous voyez, vous pouvez être frères ensemble. Paul ici, c'est sa stratégie en fait, de dire comment est-ce que j'arrive à faire en sorte que dans cette communauté, les deux se voient vraiment frères et sœurs les uns des autres et qu'il n'y en a pas un qui est un peu meilleur que l'autre parce que eux ils sont juifs et donc ils sont plus proches de Dieu parce que eux ils ont eu la promesse. Donc Paul essaie de supprimer l'entièreté de tout ce qui pourrait être une source d'orgueil pour eux, de dire « Ah nous on est meilleurs parce que nous on a la loi, nous on a les patriarches, nous on a tout ça. » Non, non. Vous vous rappelez peut-être quand on étudiait l'Épître aux Philippiens, je veux dire, Paul va regarder son passé et va dire « Tout mon passé, la loi, ma connaissance, les prophètes, tout ça, je considère cela comme des ordures, en fait. » Parce que cela n'est rien en comparaison de la connaissance que j'ai de mon Seigneur Jésus-Christ. Le fait d'avoir placé sa foi en Jésus-Christ est supérieur au fait d'avoir une identité nationale. Et c'est ce que Paul essaie de faire ici, donc, dans cette épître. Comment réconcilier les deux? Vous avez le même Père. Et ce même Père, cette descendance qui lui a été promise selon la foi, et pas selon la loi. Donc il les rétablit sur un même pied d'égalité qui vient d'Abraham et pas de Moïse, quelque part. Avant la loi. C'était l'objectif donc de Romains 4 jusqu'à 9 ici. Maintenant, une question qui demeure, et on ne va pas la résoudre non plus aujourd'hui, ça c'est pas l'objectif. Qu'en est-il de ces Israélites qui ne croient pas alors? Le monde chrétien est partagé sur ça. Certains pensent que c'est un peuple élu à part, et que Dieu fera, on va dire, une œuvre à part avec eux, en dehors de Jésus-Christ. Certains pensent que c'est juste une nation comme une autre maintenant, et que ils doivent être évangélisés par le message de la foi et qu'ils doivent croire en Jésus-Christ pour être intégrés au peuple de Dieu, au véritable Israël. En tout cas, le texte ici semble dire, ok, ils ont été retirés, on voit dans Romains 10 et 11, ils ont été retirés de l'olivier, les branches ont été coupées. Mais le texte dit aussi, quelque part, ils peuvent être regreffés dessus. Mais ils ne peuvent pas être regreffés juste parce qu'ils sont israélites, ils peuvent être regreffés comme tous ont été greffés dessus par la foi en Jésus-Christ. De la même façon. Donc, pour nous aussi, il y a une chose qu'on doit retenir, c'est que Paul, ici, n'est pas en train de dire « Les œuvres, ça ne sert à rien. » Il n'est pas du tout en train de dire ça. Ceux qui prennent, par exemple, l'Épître aux Romains pour dire que les œuvres ne sont pas importantes, il dénature complètement l'objectif de Paul. Paul, ici, ne se sert de la justification par la foi dans un objectif unique, qui est de dire aux Juifs, si vous êtes sauvés, ce n'est pas par vos œuvres, c'est juste parce que Dieu vous aime tellement qu'il a fait une grâce unique de faire venir le Fils sur sa terre pour mourir sur une croix pour vous. Et vous êtes sauvés comme ça. Paul n'a aucun intérêt ici à développer une théologie de dire, mais vous savez, je veux dire, si vous croyez en Jésus-Christ et que vous êtes justifié, normalement vous devriez produire des œuvres, vous devriez produire du fruit. C'est évident, parce que quand quelqu'un vous fait grâce, vous voulez le remercier, vous voulez lui faire plaisir, vous voulez vous soumettre face à lui, vous voulez obéir. Et ça, c'est ce que Jacques va faire. Jacques va dire, voilà l'effet de la foi. Voilà l'effet qu'il y ait une grâce. Oui, vous êtes justifié par ça. Mais si vous pensez que vous pouvez vivre n'importe comment, vous n'avez rien compris et vous n'êtes probablement pas justifié. Parce que la justification, comme on l'a vu juste au chapitre 4, elle nous fait comprendre que nous avons échappé à la colère de Dieu. Mais est-ce que l'objectif, c'est de penser que la croix est un ticket pour le ciel, qu'on a juste à présenter comme ça devant Dieu, de dire, j'ai fait n'importe quoi dans ma vie, mais j'ai le ticket. Je peux faire n'importe quoi. Non, ce n'est pas l'objectif de l'Épître aux Romains. L'Épître aux Romains ne cherche pas à répondre à ça. L'Épître aux Romains cherche à dire aux Juifs qui veulent s'enorgueillir de leurs œuvres, ce n'est pas ces œuvres-là que vous pourrez présenter devant Dieu pour vous sauver. Aucune de ces œuvres n'est importante. Ce n'est pas la foi en Jésus-Christ en dehors de ces œuvres-là. Donc, si on prend l'ensemble du conseil biblique, l'ensemble des Écritures, on voit que Paul passe du temps à essayer d'expliquer une chose, et on le voit très très bien résumé en une seule phrase dans Galates 3, 24, que je vous demande d'aller voir maintenant. Ou 3, 24 ou 3, 28, j'ai un doute maintenant, et on va le prendre ensemble. Je vais juste lire 2.21 avant, parce que c'est important pour résumer la pensée. Je ne rends pas inutile la grâce de Dieu, car si par la loi on atteint la justice, c'est donc pour rien que Christ est mort. Galates a un peu le même objectif ici que Romains, parce que les Galates étaient dans un autre contexte. Les Galates, suite à différentes autres influences juives, étaient venus de la foi, ils étaient passés de la foi à la loi. Ils étaient revenus aux œuvres de la loi. Donc ils n'étaient pas tout à fait sûrs que la foi justifierait. Et Paul vient refaire un peu le même travail qu'il fait avec les Romains, de dire, non, écoutez les gars, je veux dire, est-ce que vous avez commencé, est-ce que vous avez reçu l'Esprit de Dieu par la foi, ou est-ce que vous avez reçu l'Esprit de Dieu en pratiquant les œuvres de la loi? Et il dit, soyez un peu logique, vous êtes stupides, il leur dit, est-ce que vous croyez que Jésus-Christ est venu pour mourir sur une croix, si c'était suffisant de pratiquer les œuvres de la loi? Ça servirait à quoi qu'il soit venu faire ça? Ça ne sert à rien. Et donc en 3, on va lire 27 à 29. Oui, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez été revêtus de Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre. Il n'y a plus homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Vous appartenez au Christ. C'est donc vous qui êtes la descendance d'Abraham, selon la promesse, vous êtes ses héritiers. Ça, c'est absolument clair, en fait, ici, je veux dire. Si on avait un doute sur qui sont les enfants d'Abraham, là, c'est absolument clair. Ceux qui sont en Jésus-Christ et qui appartiennent à Jésus-Christ. Okay? Ceux qui ont placé leur... par la foi, bien sûr, parce que c'est le but de Galates 3. Ceux qui ont placé leur foi, leur confiance au fait que Jésus-Christ soit venu pour mourir sur une croix afin que nous n'ayons pas à mourir, ceux-là sont justifiés par Dieu. La colère ne passe plus sur eux, car ils sont en Christ, ils appartiennent au Christ, et ils ont l'esprit du Christ. Ceux-là sont enfants d'Abraham. Et encore une fois, ici, il est dans un contexte où il doit essayer de démontrer aux Juifs que ce n'est pas par les œuvres qu'on est sauvés. Mais comme je dis, donc, si vous allez au chapitre 5, maintenant, de Galates, juste après, vous voyez au verset 13, « Vous, frères, c'est à la liberté que vous êtes appelés, seulement que cette liberté ne donne aucune prise à la chair. Mais par amour, mettez-vous au service les uns des autres. Car la loi trouve tout son accomplissement en cette unique parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Je continue verset 17, « Car la chair, en ses désirs, s'oppose à l'esprit, et l'esprit à la chair. » Entre eux, c'est l'antagonisme. Aussi, ne faites pas ce que vous voulez. Mais si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes plus soumis à la loi. Et donc là, ensuite, on voit au verset 19, il va donner toute une liste de choses que la chair produit. Et au verset 22, tout ce que l'esprit produit. Donc en fait, il est en train de dire, ok, j'ai parlé pendant tout ce temps que c'était la foi qui vous justifiait. Et la foi fait quoi que, on sort d'une chose, de vous donner l'esprit. Et qu'est-ce que l'esprit fait? Produit un fruit en vous. Si ces fruits ne sont pas là, l'esprit n'est pas là. Si l'esprit n'est pas là, vous n'avez pas eu la foi. Si la foi n'est pas là, vous n'avez pas été justifié. Et ce qui est vraiment important, en fait, pour ce contexte de le comprendre, c'est qu'il va donner une liste, en fait. Il va dire, on connaît les œuvres de la chair, libertinage, impureté, débauche, idolâtrie, magie, haine, nanana. Ceux-là, je vous le dis, n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais voici le fruit de l'esprit, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Et c'est assez habile de la part de Paul de faire des listes, en fait, comme ça. Parce que le principe religieux même, c'est de faire des listes. C'est Dieu me donne des commandements comme ça. Et puis, je regarde à la fin de ma journée, ok, est-ce que j'ai été débauché? Non. Est-ce que j'ai fait ça? Oui. Donc ça, bien. Donc je te demande pardon pour ça, 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 ça. Ok, maintenant Dieu me justifie parce que moi j'ai fait ça. Et Paul dit non, mais vous n'avez pas compris. Ce que je suis en train de dire, je suis en train de dire que l'esprit que vous avez reçu parce que vous avez cru en Jésus-Christ est censé produire ces choses-là en vous. Et il va le faire. Si ça ne marche pas, si vous ne voyez pas ces fruits en vous, c'est qu'il n'y a pas l'esprit en vous. S'il n'y a pas l'esprit en vous, c'est que vous n'êtes pas en Christ. Vous n'êtes pas en Christ, c'est que vous n'avez pas la foi en Christ. Si vous n'avez pas la foi en Christ, c'est que vous n'êtes pas justifié. Donc il n'est pas en train de dire que les œuvres ne sont pas importantes, il est juste en train de dire que les œuvres sont une conséquence de la justification. Et c'est là le pilier fondamental qui a fait en sorte que Luther, il y a 500 ans, ouvre les yeux, en lisant le Galates et Romains. Il s'est dit, il y a un gros, gros problème dans mon église. C'est que mon église dit une chose, c'est qu'au moment du baptême, on est restauré, on est régénéré. Quand on est bébé, et que du coup, en fait, on est rétabli dans un élément de justice où Dieu nous regarde comme neutre. Et que si on pratique le bien, alors Dieu nous aime et nous sauve. Si on pratique le mal, alors Dieu nous juge et nous jette en enfer. Ça, c'est la doctrine de l'Église catholique romaine. Et Paul dit une chose, Luther a dit une chose, il dit non, non. Ce que le texte dit, c'est que nous sommes tous en enfer, et que si nous plaçons notre foi et notre confiance en Jésus-Christ, que nous soyons juifs, grecs, païens, un homme ou une femme, peu importe qui on est sur cette terre, si on place notre foi en Jésus-Christ, Dieu nous justifie. Si on dit à Dieu, je sais que ce n'est pas par mes œuvres, je sais que c'est par ton sacrifice à la croix que je suis justifié, alors je suis justifié. Et alors seulement l'Esprit de Dieu vient dans nous et produit ces œuvres-là. C'est dans ce sens-là que ça se passe.
On n'a pas envie de dire quand même tant à produire ces œuvres. Parce que ici, moi, je ne peux pas dire que je n'ai pas des querelles, des acceptables. Ivrognerie, peut-être pas, mais.
Si, si.
Bon, on a tous des choses dans ces.
Et vie. C'est l'objectif.
Et on a quand même l'esprit.
Exact.
Donc, c'est,
exact.
C'est un chemin.
Exact. Et donc. Et c'est là que je vais ressortir la phrase que j'ai appris récemment d'une personne, parce que j'aime bien, parce que Clément me pousse toujours à chercher des phrases simples pour expliquer des termes théologiques complexes, comme justification ou sanctification. Et j'avais trouvé, avec un auteur que je suis en train de lire, je te l'avais dit, une phrase, c'est que on a deux doctrines, qui est doctrine de justification et de sanctification. Mais le problème, c'est qu'on s'en mêle souvent les pinceaux déjà dans la définition parce qu'on ne sait pas ce que ça veut dire. Justification, c'est le fait d'être accepté par Dieu lorsque nous plaçons notre foi en lui. Sanctification, c'est le voyage que l'on fait lorsque nous sommes justifiés. Voilà. Mais il y a une phrase qui était encore plus simple que ça, que j'avais donnée à Clément, c'est que, il faut que je ne me trompe pas en la disant, c'est quelqu'un qui disait, la justification, c'est lorsque Jésus-Christ est le cœur de notre vie. Ok ? La sanctification, c'est quand Jésus-Christ devient la vie de notre cœur. Est-ce que vous voyez ? Et ça, c'est important parce que il y a une différence. C'est qu'on peut placer sa foi en Jésus-Christ et dire, j'ai compris que Dieu ne m'accepterait pas selon mes œuvres. J'ai compris, c'est clair, c'est venu dans mon cœur, je sens que je suis pécheur, j'ai compris. J'accepte Jésus-Christ comme seul moyen d'être sauvé, c'est clair. Ça veut dire que Jésus-Christ devient le cœur, le centre de notre cœur, si on veut, enfin le cœur de notre vie. Mais ça ne veut pas dire que notre vie va être marquée par l'Esprit de Dieu tous les jours, entre guillemets, on va continuer à pécher, on va tomber. Et c'est là qu'il dit la démarche de sanctification, c'est lorsque on prend conscience que notre vie, ok, doit être Jésus-Christ. Donc quelque part, si Jésus-Christ, ok, est le cœur de notre vie, si notre vie, si la vie de notre cœur devient Jésus-Christ, notre cœur entre guillemets là est vraiment transformé. Vous voyez ce que je veux dire?
C'est mais pas nous, si... pour être sauvés, on doit être justifiés.
Voilà.
Et la sanctification, c'est quoi alors?
Donc juste pour préciser une chose qui est importante, il peut arriver que certaines personnes sur cette terre soient justifiées sans avoir eu l'opportunité d'être sanctifiées.
Comme
des gens qui meurent sur leur lit de mort, par exemple. Ils n'auront pas, entre guillemets, le temps de vivre une vie avec un cœur centré sur Jésus-Christ. Une vie, un cœur transformé, ils n'auront peut-être pas eu. Une vie transformée, je veux dire. Peut-être leur cœur aurait été transformé, mais leur vie, entre guillemets, on n'aurait pas su. Mais nous qui avons l'opportunité de vivre un temps jusqu'avant notre mort, ben, quelque part, on expérimente Jésus-Christ dans notre vie et il la transforme.
On ne peut pas dire, je suis justifié par Jésus-Christ, mais le Saint-Esprit ne fait pas beaucoup de bonnes œuvres.
Ça n'a aucun sens.
Je ne parviens pas. C'est l'œuvre du Saint-Esprit, ouais. C'est pas mon œuvre,
voilà.
Et ça ne vient pas.
Et c'est donc là que Romains 8...
Il y a des gens qui se comportent comme ça.
C'est donc là que Romains 8 est important. Et un bon exercice, ce serait de lire l'ensemble de Romains 8 une fois. Faites l'exercice, ça prend à peu près une heure et demie. Okay. Et vous verrez comment Paul va utiliser dans Romains 8 l'Esprit. Parce que juste avant de parler de ce passage-là, en fait, il va dire « Par l'Esprit de Dieu, faites mourir les œuvres de la chair. Si vous vivez par la chair, vous mourrez. Si vous vivez par l'Esprit, vous vivrez. » Et ici, il y a quelque chose qui est important, c'est que Paul est en train de dire aux Juifs « Arrêtez avec vos propres efforts de croire que parce que vous venez devant Dieu avec vos efforts, Dieu va vous bénir et vous remercier parce que vous avez bien fait. » Non. Les œuvres viennent parce que l'Esprit de Dieu travaille en vous, parce que vous placez votre confiance. Et c'est ce que Luther disait de façon fantastique. Il disait, la justification vient de la foi en Christ. La sanctification vient de la foi en Christ. Lorsque nous plaçons notre confiance en Christ et que nous regardons à cette croix et à cette personne que nous avons fait souffrir, sa grâce devrait nous transformer. Ça, c'est le travail de l'Esprit de Dieu, de communiquer à notre cœur sa grâce, afin que nous soyons transformés. Donc, moi c'est terminé de toute façon, mais je voulais juste dire les deux piliers de notre justification sont repentance et foi. Plutôt les deux piliers de notre vie sont repentance et foi. Au revoir. Nous avons vu dans les évangiles le témoignage de Jésus-Christ, de Pierre lors de la Pentecôte et tout cela, qu'il y a une nécessité de se repentir, de reconnaître le péché. Et là, nous venons de voir qu'il y a une nécessité de placer notre confiance en ce Seigneur et Sauveur. Donc, il n'y a pas de contradiction entre ce que Paul dit et ce que Jésus dit. Les deux prêchent la même chose, qu'il est nécessaire de placer sa confiance en Jésus-Christ afin de recevoir le pardon de nos péchés et dans ce sens-là, produire un fruit qui est digne de l'Évangile. Prions. Merci Seigneur que ta parole est parfois complexe, on doit démêler certaines choses, on doit essayer de comprendre. Mais en toute chose Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu as rendu les choses simples dans le sens que tu as aplani le sentier entre toi et nous, tu as rendu le chemin droit, peut-être étroit dans le sens que c'est difficile de marcher dessus. Mais nous savons que tu nous as placés sur ce chemin. Lorsque tu as fait en sorte que ton esprit vienne dans nos cœurs, que nous croyons en toi, afin que nous croyons en toi, que nous soyons justifiés par ton œuvre à toi et pas par nos œuvres. Et nous voulons te remercier parce que nous sommes conscients que ce n'est pas juste un ticket pour le ciel que tu nous as donné, ce n'est pas juste un pass que les autres n'ont pas et que nous avons, mais tu veux transformer nos vies, Seigneur. Tu veux maintenant opérer une vie qui est en phase avec ton royaume. Pas simplement espérer dans une vie éternelle en faisant n'importe quoi sur cette terre. Mais nous voyons l'importance, Seigneur, de rechercher ton esprit et de le laisser transformer nos vies. Afin que ton œuvre soit visible en chacun de nous. Et nous voulons te prier que toute personne qui n'a pas encore placé sa confiance en toi, qu'elle soit païenne, athée, de n'importe quelle religion, juive, peu importe, Seigneur. Seigneur, que chaque personne, Seigneur, qui entend ce même message de justification par la foi, puisse placer sa confiance en toi afin de ne pas se perdre. Nous voulons nous rappeler, Seigneur, que nous sommes justifiés lorsque nous t'acceptons au cœur de notre vie, Seigneur, comme Seigneur et Sauveur. Seigneur, et nous voulons te prier que tu puisses continuer à opérer ta sanctification dans nos vies, afin que justement notre vie soit animée par toi à chaque instant, et que les fruits et les œuvres que nous pratiquons soient comme un témoignage et un signe que nous t'appartenons, que nous sommes en toi. Aide-nous, Seigneur, encore à chaque jour de notre vie à être de bons témoins, afin de ne pas être un frein à l'Évangile pour les autres. Je te prie au nom de Jésus. Amen. Thank you.